les feux de circulation de terrassons étaient dans l'eau. Vous nous avez envoyé une photo, je ne sais pas d'où elle est. Je sais que, par quelqu'un de très bien placé, que l'eau est montée jusqu'à la cour de la gare de Terrasson et les clayettes de noix d'un marchand de noix qui était à l'époque là où il y a aujourd'hui la poste, bureau de poste de la gare, eh bien les noix de Vergniaud avaient baigné et la papeterie aussi. Quelqu'un a peut-être une photo de la machine 3 dans l'eau, non ?
Elle est au musée dans un livre. Hein.
Ah, on me cache tout. Nous avons ici des témoins de l'inondation. Moi, je n'y étais pas. Mais je sais ce qui s'est passé. La Vézère a fait une crue millénaire, pour le coup, de 8 à 10 mètres à peu près. L'embranchement de l'usine, il était dans l'eau. Je n'y étais pas. Mais par contre, j'ai tellement entendu parler de la suite. C'était une occasion rêvée pour arrêter l'activité de l'usine. Elle était petite, elle produisait de mémoire 30 000 tonnes par an d'un papier qui avait sa place sur le marché. Si vous voulez tout savoir, c'était le papier qui traditionnellement était utilisé pour l'édition des prix Goncourt. Le bouffant de Condat avait des qualités que d'autres papiers n'avaient pas, autrement dit. Et elle n'était plus viable. Cette inondation était une aubaine. N'importe quel industriel aurait décidé de profiter de l'aubaine. Mais il se trouve que dans les 3 ou 4 années qui ont précédé l'inondation, un personnage est venu hanter le milieu industriel du Lardin qui s'appelait Gérard Bizot. Gérard Bizot était le fils d'une riche famille d'industriels lyonnais. Alors c'est là que, comme j'ai prononcé le nom de Lyon, je vais vous dire qu'en 1907, un industriel de Lyon qui versait dans la chimie, de la famille Gillet, qui avait par la suite créé la société Progil Produits Gillet, cherchait à fabriquer un peu partout en France du tanin. Pas du tout pour tanner, mais parce que le tanin était nécessaire, je crois, comme fixateur pour les teintures des soies lyonnaises. À l'époque, c'était toute une industrie. Cet industriel lyonnais, chimiste, avait crotté un peu partout des usines d'extraction de tanin. Il y en avait une au Lardin. La guerre de 14 a été une aubaine. Les harnachements de toutes les armées du monde, à l'époque, étaient en cuir. La production de cuir a fait un bond gigantesque. Alors, ça consistait en quoi ? Grosso modo, on coupait en petits morceaux du bois qui renferme du tanin. Ici, le massif central, sud et ouest, et aussi un peu est, était bordé de châtaigniers. Vous êtes trop jeune, mais il y a 50 ans, quand on allait de Montignac à Sarlat, j'ai envie de dire qu'on traversait que des châtaigneraies. De nos jours, il faut les chercher, les châtaigniers, vous ne trouverez plus que des repousses de châtaigniers. Le vieux châtaignier était un bois précieux pour l'extraction du tanin. Le plus précieux était un acacia du Brésil, mais en France, on utilisait soit du chêne, le chêne a du tanin. C'est tellement vrai qu'au Moyen-Âge, et jusqu'à l'extraction des tanins, pour tanner le cuir, on faisait macérer dans les rivières des peaux de bestiaux avec des bûches de chêne. Fallait y mettre le temps, mais le tanin du chêne passait dans le cuir de... Bon, j'arrête cette parenthèse. Après la guerre de 14, un ingénieur de chez Progil a eu l'idée suivante. Pour faire du tanin, on coupe un petit morceau du chêne ou du châtaignier, on fait cuire, on fait bouillir, et puis on concentre le jus et on vend le tanin liquide. Il y avait des grandes bonbonnes à l'usine encore. On le vendait surtout en tonneaux. Il y avait des tonneliers au Lardin. Rappelez-moi le père
Magnanou.
Ingénieur de Progil, ici, il a dit, une fois que vous avez fait cuire tout ça, il vous reste quoi ? Comme quand vous faites le café, il vous reste le marc, c'est-à-dire tous les copeaux que vous avez expurgés, vous les avez sur le bras, et pendant des années, ils ont servi de combustible. Jusqu'au jour où un ingénieur a dit, mais c'est du gaspillage de faire brûler ça, alors que c'est une richesse, c'est une mine de fibres de cellulose. Et le groupe La Maison Progil appartenait à un autre groupe, enfin avait des liens très très serrés, avec un autre groupe qui était la Rodiaceta, qui fabriquait la rayonne ou la soie artificielle, qui n'est autre que de la cellulose, mais c'est une cellulose un peu particulière, enfin qui requiert des qualités très, très pointues. Et l'idée de Progil, quand la guerre de 14 s'est terminée, était de fabriquer de la pâte de cellulose pour l'industrie de la rayonne. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Roger l'a dit, écoutez, on va l'utiliser pour faire du papier, en désespoir de cause. Et ils ont convoqué la famille Montgolfier de l'Ardèche, qui est venue passer quelques mois pour installer la machine 3. Je ne sais pas combien de temps a duré la chose, mais cette pâte qui ne valait rien pour la rayonne, elle s'est avérée très très bonne pour faire le papier bouffant. Cette machine 3 avait une capacité de 30 000 tonnes par an. C'est elle, la pauvre, qui est passée dans l'eau totalement le 5 octobre 1960. Je reviens sur le personnage du fils le plus jeune de cette famille Gilet, qui ne s'appelait pas Gilet, qui s'appelait du nom de l'ingénieur gendre Bizot. Son père était le patron, le directeur général de la maison Gilet. Gilet, c'était la génération précédente. Mais quand même, beaucoup parmi vous ici ont vu un personnage haut en couleur, qui était le directeur général de Progil, qui s'appelait Monsieur Brulfer, qui était par ailleurs le président de l'industrie chimique française. Il avait une usine à Clamcy avec un laboratoire. Il était très connu parce qu'il était, le malheureux, un peu trop gros. Et lorsqu'il se déplaçait, on ne pouvait pas l'amener déjeuner chez Sauté. Il fallait aller à Montignac, au Soleil d'Or. Là, il y avait des fauteuils qui permettaient d'accueillir M. Brulfer. Et j'en viens à l'inondation. Gérard Bizot, 3 ou 4 ans, a fait ses études de jeune industriel. La famille l'avait mis là pour qu'il apprenne son métier d'industriel. Le jour de la crue, j'ai oublié un détail le plus important. Gérard était le chouchou de sa grand-mère. Sa grand-mère, qui était une Gilet, c'était donc la mère de Madame Bizot. Cette grand-mère avait un petit-fils préféré qui était Gérard. Il faisait tout ce qu'il voulait de sa grand-mère. Détail très important, Madame Gilet, grand-mère, était le plus gros porteur de part de Ron Poulenc. Ça aide. Et dans cette famille-là, les parts étaient distribuées, mais elles étaient gérées en commun par un conseil de famille. On rigolait pas avec ça. Sauf Gérard, qui, lorsque l'usine a été inondée, c'était son usine à lui. Il y avait fait toutes les phrases qu'il avait pu. A décidé qu'on n'allait pas l'arrêter, qu'il fallait la démarrer le plus tôt possible, et pire que ça, ou mieux que ça, puisqu'on devait la relancer, il fallait multiplier par 4 la production. Alors, pour ce qui est du redémarrage, ça n'a pas été trop difficile. Il a fait convoquer tous les services entretien des diverses, d'une dizaine d'usines du groupe Progil, de Pont-de-Claix, de La Bruguière, des Roches de Condrieu, et tous ces ouvriers d'entretien se sont précipités sur Condat pour venir au secours de cette petite usine. Je ne vous donnerai qu'un chiffre. Il a fallu d'abord attendre que l'eau s'écoule, que l'eau s'en aille. Et ensuite, quand l'eau était partie, on a sans doute arrosé pour enlever la boue. Mais on a surtout démonté 800 moteurs électriques. On les a étuvés, rebobinés s'il fallait, mais en 3 semaines...
Changer toute la transmission de la machine, les courroies qu'il y avait...
Voilà, ça ne pouvait se faire qu'avec ce renfort gigantesque de tous les ouvriers d'entretien, de tout le groupe Progil. J'arrête là pour ce qui est de l'inondation, parce que je n'étais pas témoin. Mais voilà que le 5 octobre de l'année suivante, c'est-à-dire en 61, Gérard Bizot a voulu fêter ce redémarrage triomphal et il a convié un grand banquet, pas loin de l'usine, sans doute chez Coustilla, dans la place de la gare actuelle du Lardin. Il n'y avait pas une bobine en papier en béton. Il y avait un hôtel-restaurant, l'hôtel Coustilla, chez Léon. Et c'est là, je pense, qu'a eu lieu le banquet anniversaire. Et Gérard Bizot, avant ce banquet-là, figurez-vous qu'il avait décidé, donc, je vous l'ai dit, de multiplier par 4 la production. Il avait circonvenu sa grand-mère. Il avait donc eu tous les financements qu'il avait voulu. Et il avait décidé qu'on monterait une machine à papier de 200 000 tonnes par an. C'est la célèbre machine 4 de Conda qui, si j'ai bien compris, est la seule qui a fait vivre l'usine les dernières années parce que la plus grosse a dû être mise sous cocon pendant 3 ou 4 ans. Elle tourne toujours. Et lorsqu'il a organisé ce banquet, il avait une idée très précise. C'était l'achat de cette machine. Il savait que la grand-mère, de toute manière, l'aiderait devant le conseil d'administration. Et il fallait de la chair fraîche pour faire marcher tout ça. Des gens d'encadrement pour renforcer les équipes. Parce que l'usine devait passer du calibre 400 ouvriers au calibre 1000 ouvriers à peu près. Et M. Gérard Bizot, il a eu une aubaine. Cette année-là, en 61, il y a eu un événement, pas ici, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des gens qui ont décidé de retourner leurs armes contre la République et il y a eu ce qu'on a appelé le putsch des généraux d'Alger, qui a eu quelques séquelles. Certains de ces auteurs, de ces malandrins, se sont retrouvés incarcérés à Fresnes et ensuite sont passés en jugement. Et Gérard Bizot avait été impressionné par l'efficacité de ces jeunes gens. Il avait dit, tiens, voilà ce qu'il me faut pour démarrer la machine 4. Et il avait fait son marché, comme je le dis, sur les marches du palais de justice de Paris. Et il suivait de très près les procès. Et il s'est adressé à une association qui s'appelle la Saint-Cyrienne, qui est l'association des anciens élèves de Saint-Cyr. Et la Saint-Cyrienne avait en charge tous ces Saint-Cyriens qui se retrouvaient en prison. Et Gérard Bizot s'est fait donner les adresses d'une douzaine de ces condamnés qui sont sortis de prison, figurez-vous. Et alors ils étaient libres et il n'y en a qu'une demi-douzaine qui est venue au banquet. Je n'étais pas de ce banquet parce que je ne savais pas que le banquet avait lieu. Et alors l'un de mes camarades m'a dit « Comment se fait-il que votre absence au banquet ?» Et je lui ai expliqué que je n'étais pas au courant. Alors il m'a dit, on va essayer de rattraper ça. Et il s'est débrouillé par la Saint-Cyrienne pour m'obtenir un rendez-vous chez Gérard Bizot à Paris. Et il m'a dit, j'ai fait le plein, j'ai tout ce qu'il faut. Il avait embauché 6 de mes camarades. J'ai plus de place pour toi parce qu'il tutoyait tout de suite. Mais je vais m'adresser à un confrère. Et il m'a obtenu un rendez-vous chez un de ses confrères et concurrents, le président de la cellulose d'Aquitaine, qui a toujours une usine à Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne, pas loin de Montmorin, et de l'Espugue, qui m'a très bien reçu. Il m'a offert même un emploi de contremaître dans les exploitations forestières des forêts très pentues des Pyrénées. En prison et en sortant de prison, j'étais tombé amoureux. Il y avait des projets de mariage très précis. Ma partenaire, nous n'étions pas encore mariés. Je l'ai tenue au courant de l'avenir brillant qui s'annonçait. J'ai trouvé qu'elle n'avait pas un enthousiasme féroce. Alors, je suis revenu chez Gérard Bizot, je lui ai raconté. Il m'a dit, comment ils t'ont proposé? Alors, combien tu gagnais avant? Et alors, il m'a assuré la même rémunération que celle que j'avais de l'autre côté de la Méditerranée. Et il ne savait pas pour quel métier. Il m'a dit, je me mariais le 31 janvier, il m'a dit le 1er février, il faudra aller à l'usine de Conda. Le 1er février, c'était un dimanche, alors j'y suis venu le 2, le lundi. Et voilà comment j'ai été embauché aux papeteries de Condat. Je suis prêt à vous parler, par contre, de ce qu'étaient les papeteries de Condat à cette époque-là.
Vous avez été embauché quelle année ?
62. La machine 4 n'est pas venue toute seule de Beloit, aux États-Unis, à côté des Grands Lacs, au Lardin. C'est qu'il y a eu des travaux préparatoires très importants. Et Gérard Bizot a pris sous le bras M. Pagnoux, qui était l'ingénieur d'entretien, et un jeune garçon qui s'appelait Blanc, son prénom c'était Michel Blanc. Ils sont partis en expédition, voire discuter avec le constructeur Beloit. Gérard Bizot voulait une machine très importante dans l'industrie du papier d'impression écriture qui était celui des papeteries de Condat. Des machines plus grosses, on en trouve en particulier dans le papier journal, qui n'était pas le marché des papeteries de Condat. Alors, je passe sur tous les détails de ce voyage d'exploration, mais je vais vous dire comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par la commande de la machine 4. La commande, cette commande, elle existe toujours au musée de... pas de l'industrie, mais au musée des trésors de la société Beloit, constructeur de machines à papier. Et la machine 4 a été commandée au dos d'une enveloppe de correspondance, de la main manuscrite de Gérard Bizot, bon pour une machine à papier de capacité 200 000 tonnes par an, bon pour achat, pardon, facture à convenir ou je ne sais plus quoi, mais signé Gérard Bizot, telle date, etc. C'est la commande de la machine 4 de Condat. Et si vous allez aux États-Unis, ne manquez pas de passer la voir à Beloit. Et elle y est toujours, paraît-il. Ça vous donne une idée aussi du personnage. Mais alors, la machine arrivée à Condat, je vais vous raconter alors ce qui s'est passé. Parmi les techniciens que Gérard Bizot venait de recruter, il y en avait un qui était spécialiste dans les explosifs. Sa mission a été de détruire surtout. Il a fallu détruire l'hôtel Coustilla. Il a fallu détruire une minoterie qui était sur le CERN et qui appartenait à la famille Hamelin. Et il a fallu détruire... je vais vous situer comment était l'usine quand même. Voyez la cour de la gare du Lardin. Maintenant, il y a l'usine. À l'époque, on passait entre la gare et l'usine, il y avait un chemin d'accès, et on débouchait sur un Porsche Progile, c'était l'entrée de l'usine, et on débouchait à côté du bâtiment de la machine 4, qui était le pied du bâtiment qu'on plantait de rosiers. Et voilà comment on accédait à l'usine. On était, la voie ferrée à gauche vous surplombait. Elle était à 2 ou 3 mètres au-dessus. On descendait à l'usine. Avant d'accéder à l'usine, il y avait des prairies, il y avait la minoterie à Melun.
Un lavoir.
Il y avait un lavoir. La machine 4 a démarré le 14 avril 1963. Pourquoi le 14 avril ? Pourquoi la date ? Mais c'est une date que nous avons tous en tête. C'était le jour de Pâques. C'était le jour de Pâques et d'aucuns ont vu là la malédiction qui s'est abattue sur l'usine par la suite. Si on n'avait pas démarré le jour de Pâques, peut-être que le démarrage se serait passé dans de meilleures conditions. Car les grands spécialistes recrutés par Gérard Bizot, heureusement, il en restait quelques-uns qui étaient du métier. Et en particulier, il y avait le chef de production, qui s'appelait M. Boucher. Je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis arrivé, M. Boucher, qui était le chef de production, qui était le patron de la production, de la machine 3. Ah, pourquoi machine 3 et 4 ? Parce qu'il y avait deux machines, 1 et 2, avant. C'était des presse-pattes du temps où la société avait envie de vendre de la pâte. Je ferme cette parenthèse. Mais ça vous explique le 3, le 4 Et alors, pourquoi je parle de la numérotation? La machine 4, elle a démarré un jour de Pâques. Elle a démarré très péniblement. Je dois vous le dire, les spécialistes recrutés par Gérard Bizot, ils n'étaient pas aux manettes. C'était des vrais papetiers qui étaient là. Monsieur Boucher, puis il y en avait d'autres. Il y avait même des techniciens du constructeur qui ont vécu là plusieurs mois. Je dirais, pour résumer, qu'il a fallu 2 ans bien tassés pour que la machine démarre. Et quand je dis 2 ans, c'est pas une légende, c'est une réalité. Dans l'industrie papetière, chaque fois qu'une machine à papier démarre, le directeur est vidé. Et alors mon prédécesseur, qui était un homme charmant, Monsieur Omri, qui était un marin, qui avait fait des études savantes, lui. Il lui est arrivé ce qui arrive à tous les directeurs qui démarrent une machine à papier. Comme ça ne démarrait pas assez vite, il a fallu le remplacer. Je serai discret sur la façon dont il a été remplacé. Très étonnamment, c'est pas l'ingénieur qui était prévu au départ qui a remplacé Monsieur Omri. C'est le chef du personnel, figurez-vous. Il y a eu quand même un jour de grève à l'usine. Ne me demandez pas quand est-ce que c'était. C'était au cours du mois de mai, je n'en sais rien. Vers la fin, sans doute. Je vais vous en parler parce que l'aspect social des choses n'est pas sans intérêt. Je revois un grand calicot sur les grilles de l'usine. Usine en grève. Je revois les trieuses. Les trieuses étaient sorties de l'atelier. Elles s'étaient installées devant l'entrée de l'usine. Elles tricotaient, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Le matin, quand je suis arrivé, Madame Laperoni vient me dire « Monsieur, les syndicats veulent vous voir. » Et faites entrer, je vois arriver François Vial. Il devait y avoir, je pense, la Joanie, il devait y avoir de l'As. À ma grande surprise, c'est François Vial qui commandait. C'était le syndicat FO. Bref, c'est lui qui est revenu. Il m'a dit carrément, monsieur, aujourd'hui, c'est nous qui commandons, si vous voulez, mais à une condition. Ce soir, vous me rendez l'usine et vous vous débrouillez pour que la machine 4 fasse du papier. Ils m'ont dit d'accord. Et le reste de l'usine était en grève. Ils m'ont rendu l'usine. Le soir, nous avons fait ensemble le tour de l'usine. Tout était en ordre, la machine marchait toujours. Et il y a eu quelques couacs dans le dispositif. On avait acheté une gigantesque grue russe pour le parc à bois. Elle était peinte en bleu, je me rappelle. Et pendant la grève, on voyait ce gigantesque engin qui manutentionnait qui vidait des wagons de bois et qui empilait, etc. Et alors j'ai dû intervenir en disant, mais écoutez, faites arrêter le grutier parce que personne ne croira que l'usine est en grève. Et alors on a arrêté le grutier. Est-ce que c'était une tricherie? J'ai pas du tout l'impression que ni moi ni les gens que je vous ai cités aient eu conscience d'avoir triché. On a sauvé notre peau. C'est tout. Et ce mois de mai, pour vous restituer l'ambiance, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, pour téléphoner à quelque part, il fallait passer par les centraux téléphoniques. À Terrasson, il y avait mademoiselle Madeleine Pouliken, qui était demoiselle des PTT. Il fallait mettre des jacks, ça s'appelait comme ça, dans l'état pauvre, établir les liaisons entre le demandeur. Vous êtes trop jeune, mais sinon vous auriez connu le sketch de le 22 à Asnières. Voilà. Nous étions coupés pendant un mois. Le siège ne savait pas ce que faisait l'usine. L'usine ne savait rien. Alors je reviens à Gérard Bizot. Il savait que les ponts étaient coupés. Il avait une préoccupation. C'est qu'il fallait payer les gens. Alors il est descendu de Paris en voiture avec des valises bourrées de billets, et il a porté ça à la maison, alors qu'en fait, on n'avait pas de difficulté avec les banquiers du coin. Et il a organisé une réunion du comité d'entreprise au bungalow. Je vais vous le raconter, ça, parce que c'est un de mes souvenirs marquants, et c'est une expérience sociale. Gérard Bizot voulait à tout prix que les gens de Condat ne souffrent pas de l'ambiance du moment, de la grève, etc. Et il était prêt à tout. Or, les accords de Grenelle venaient d'être signés, et tout ce qui en était sorti ne pouvait pas intéresser Condat, parce que nous étions, figurez-vous, si le Grenelle a augmenté de 15% les salaires, manque de peau, ça n'avait aucun effet chez nous, parce qu'on était déjà au-dessus. Et il n'y avait rien à gratter. Et Gérard Bizot cherchait quelque chose, et je lui ai dit, amnistier, ça ne va rien vous dire. Amnistier la grève de 38. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En 38, après le Front populaire, il y a eu des mouvements sociaux en France un peu partout. Je ne sais pas ce qui s'était produit au Lardin. Bref, Progil a lock-outé. De nos jours, ça n'existe plus. Mais la direction dit, vous voulez faire grève? Je ferme l'usine, vous resterez chez vous, tirez la langue tant que vous voudrez. Je rouvrirai l'usine quand ça me plaira. C'était ça le lock-out. Je crois que ça a duré 6 mois en 38. Ajouté par-dessus le marché qu'après, 2 ans après, il y a eu la guerre. Et là où je voulais en venir, c'est que les grévistes de 38, qui avaient été repris après la guerre, sans doute, on leur avait supprimé l'ancienneté acquise avant la grève. Autrement dit, ils étaient repartis vierges pour une nouvelle série. Et il a bondi sur le truc et il a dit, nous allons redonner l'ancienneté à tous les grévistes de 38. Je vous raconte ça parce que j'ai vu, je ne vous dirai pas qui, les larmes aux yeux, c'était un ancien gréviste de 38. Il était à l'époque membre du comité d'entreprise. Je vous raconte ça parce que personne ne peut vous dire l'ambiance qui régnait dans nos murs en mai 68. Allez, pour moi, c'est un très bon souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je veux quelques chiffres quand même. La production, elle était passée de 30 000 tonnes. Je dois vous dire qu'au mois de mai 68, nous avons battu notre record de production. Ne me demandez pas combien c'était. Voulez-vous que je vous passe des notes de service? Comme tout le monde, nous étions mal payés à l'usine de Condat. Et c'était le harcèlement de la direction. Alors un jour, de guerre lasse, la direction a eu cette idée assassine de publier non pas les salaires de chacun, mais l'évolution des salaires. Et la liste commençait par la lettre A. Ce malheureux qui commençait par la lettre A avait vu sa rémunération dans l'année augmenter de, je crois, de 90%. Je sais pourquoi elle était de 90%, c'est que sa situation avait largement évolué. Alors c'était la stupéfaction, mais ça a eu un très grand succès. C'était la première fois que les gens voyaient un peu clair dans la situation. Je ne vais pas vous parler des banquets des pompiers.
Il était pompier?
Oh, je sais. Et il y avait le médecin des pompiers.
Alors, bah, juste une question. Est-ce que la famille Gillet a gagné de l'argent avec cette histoire-là?
Alors, je vais vous dire. Moi, je ne comprenais pas, avec toutes les pertes qu'on faisait, que ça ne traumatise pas plus que ça la direction générale. Lorsque j'ai découvert, parce que j'étais novice dans tous les domaines, et en particulier financier, mais quand j'ai découvert que dans les groupes comme ça, il y a ce qu'on appelle le bilan consolidé, vous voyez, vous en savez plus que moi, c'était pas sans intérêt parfois un établissement face des pertes. Ça permettait de ne pas payer d'impôts. Je résume en disant que vraisemblablement, la situation catastrophique de Condat n'était pas tellement douloureuse que ça, parce que ce que je viens de vous dire, c'est l'État qui a été perdant par manque de rentrée d'impôts, en tout et pour tout.
Pour ceux qui le veulent, la...